Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Bonjour Christophe Desmurgés.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir dans cette librairie, la librairie Majolir, à Bourg-Majalieu. Vous avez écrit deux romans, Des plumes et du goudron et L'assassinat de Gilles Marzotti. Si vous êtes d'accord, nous allons les évoquer l'un après l'autre. Dans le premier, vous racontez une année d'un professeur d'école. Le second, dans un tout autre registre, évoque un personnage qui a les plus grandes difficultés à gérer ses comptes parce qu'il a une tendance fâcheuse à dépenser plus qu'il ne gagne. Les deux sont écrits à la première personne. Ce choix d'écrire à la première personne, comment est-ce qu'il vous est venu ?
Il est venu naturellement. C'est-à-dire que j'écris depuis très longtemps. Ces deux romans que vous venez d'évoquer ne sont pas mes premiers écrits, ce sont mes premiers écrits publiés, on va dire. J'ai toujours écrit à la première personne, peut-être parce que je suis dans une écriture, c'est peut-être ce qui rassemble d'ailleurs les deux livres, assez émotionnelle. C'est-à-dire que j'écris des histoires de personnages où j'essaye d'embarquer les lecteurs avec le personnage dans ses émotions, dans ses affects, dans sa vie. Et la première personne pour moi, sur ces deux romans-là en tout cas, s'est imposée, même si je ne dis pas qu'à l'avenir j'écrirai pas à la troisième personne, c'est en étant moi-même plus impliqué dans l'histoire, on va dire.
Il y a un autre point commun entre les deux ouvrages, c'est le style, une écriture nerveuse. Vous avez une prédilection pour les phrases très courtes. Est-ce que vous avez travaillé cet aspect de votre écriture ou bien est-ce qu'elle vous est venue naturellement ?
Alors je dirais que c'est un peu les deux. J'ai une tendance naturelle à être plutôt dans une écriture synthétique et je travaille beaucoup à la brièveté des phrases parce que dans les deux livres ce sont des personnages, on va dire... j'avais dit une fois dans une interview que j'avais écrit Des plumes et du goudron comme en boxe. Je trouve que ça donne une vraie énergie à l'écriture. Là encore, c'est pas forcément... je me dis pas que je vais tout le temps écrire comme ça, mais en tout cas pour ces deux livres, qui sont deux histoires de personnages, on va dire, un peu perturbés, un peu tourmentés, qui avancent dans une vie, qui comprennent pas toujours, je trouvais qu'ils avaient tous les deux une image un peu comme ça de boxeur acculé, et que l'écriture un peu sèche, un peu nerveuse, se mariait bien avec le sujet.
Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre propos, mais votre premier livre, Des plumes et du goudron, pour moi, ça n'est pas un livre sur l'école. Ce n'est pas un livre qui parlerait de l'école au sens d'un livre militant qui dénoncerait les lourdeurs d'un système scolaire très centralisé, ou qui dirait l'irruption pas toujours maîtrisée de la société dans les établissements. Ce n'est pas non plus un livre de lamentation dans lequel l'enseignant se plaindrait d'une école qui n'est plus celle qu'elle était, d'élèves qui sont de plus en plus indisciplinés, de parents qui interviennent à tout propos. Votre roman, c'est ce qui m'a touché, raconte des personnages, des personnes, les enseignants de cette école primaire que vous situez quelque part dans la banlieue d'une grande ville, les élèves dans leur formidable diversité, les parents aussi.
Je voulais écrire un roman initiatique. Je voulais écrire le passage, on va dire, de l'adolescence à l'âge adulte d'un jeune homme, donc qui s'appelle Louis et qui, en l'occurrence, est enseignant. Et je m'étais fixé quelques règles parce qu'écrire un livre sur l'école, c'est un peu compliqué, surtout quand on est enseignant. on se doit d'être un peu prudent avec l'institution. Il y a beaucoup de livres qui parlent d'école, et je m'étais fixé comme règle, notamment, de presque jamais décrire des scènes de classe ordinaires, c'est-à-dire la leçon de grammaire, l'apprentissage de la division, parce que je trouve pas ça très littéraire, pas forcément très intéressant, et que ce qui m'intéressait, moi, c'était de montrer un petit peu tout ce qui fait que l'école, ça peut être autre chose, c'est-à-dire un formidable vivier d'événements, alors surtout dans ce livre-là où les événements extérieurs sont assez riches, et où en fait tous les personnages évoluent tous ensemble, ils sont dans le même bateau, ils font ce qu'ils peuvent, et c'est comme ça que je voulais aborder ce livre-là sur l'école. Alors je dirais qu'effectivement c'est un livre dont le thème est l'école, mais essentiellement pour moi c'est un roman initiatique.
Alors apparemment, si on veut impressionner les élèves, la tenue vestimentaire est très importante. Et votre personnage, lui, il opte pour une tenue à la Clint Eastwood. Des bottes, les jeans et une chemise sombre. J'imagine que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les centres de formation des maîtres.
Alors sans vouloir être méchant avec les centres de formation des maîtres, si un peu à contrario, c'est-à-dire que j'ai eu des professeurs dans des centres de formation des maîtres qui avaient un tel accoutrement... que quand il venait nous voir en classe, il avait tendance un peu à prêter à rire auprès des élèves. Alors cette image de Clint Eastwood, alors déjà c'était pour rendre hommage à Clint Eastwood, parce que j'aime cet homme, je continue à l'aimer, même si aujourd'hui il tient parfois des propos un petit peu douteux. En tout cas, c'est pour moi un modèle d'anti-héros, et je trouvais que mon personnage n'était pas si éloigné que ça du anti-héros moderne, on va dire. Et je trouvais ça drôle, en fait, l'irruption un peu du western dans l'école. Certes, on l'apprend pas vraiment en formation, mais je pense qu'au-delà de la tenue vestimentaire, parce que c'est évidemment exagéré, je me suis quand même jamais présenté à l'école habillé en cow-boy. En tout cas, je le dis d'ailleurs dans le livre, le plus important qu'on devrait nous enseigner, c'est de jamais regarder nos chaussures. C'est-à-dire, quelque part, quand même, d'avoir une attitude, d'incarner quelque chose, quelqu'un... qui n'a pas peur, qui va être capable de tenir le navire, puisque tout à l'heure, je parlais de bateau.
Quand même, les détails physiques sont très importants. Il ne faut pas sourire. Surtout, vous venez de le dire, ne pas regarder ses bottes. Et quand il est à la maison le soir, le professeur travaille son regard. Et il s'exerce avec sa compagne à placer sa voix.
Oui, alors ça je pense que c'est les erreurs que fait ce jeune enseignant. C'est-à-dire qu'il pense que ce qui est important, c'est le costume, c'est de bien placer sa voix, c'est d'être impressionnant, parce qu'en fait, il se dit au début du livre, j'ai des élèves très indisciplinés, il faut que je les impressionne, donc il connaît lui qui l'impressionne, c'est le shérif, le policier, donc il est un peu dans ce registre-là, mais il va découvrir comme au cours de son année scolaire que c'est pas ça qui compte, que ce qui compte... C'est au contraire, au-delà de sa panoplie de cow-boy ou d'autres choses, c'est d'être un humain. Et ce qui est dommage qu'on n'apprenne pas en formation, c'est que ce qui compte, à mon avis, quand on est enseignant, c'est pas la pédagogie, mais l'humanité, tout simplement. Le fait d'être capable de prendre un élève par la main et de l'emmener sur le chemin, comme disait Yves Duteil, mais c'est presque ça, en fait. C'est d'être capable de se mettre à la hauteur de l'enfant, quel qu'il soit. De le regarder avec bienveillance et d'essayer de faire quelque chose avec lui, même s'il a l'histoire qu'il a, même s'il a pas envie de travailler, etc. Et qu'effectivement, là-dessus, Louis se trompe, et heureusement pour lui, à un moment donné, il va s'en apercevoir, quand même.
Moi, je dirais les choses, si vous permettez, un peu différemment de vous. J'ai l'impression qu'il apprend, hein, notamment dans ce séjour, cette classe verte, où il y a un garçon, le soir, qui est en détresse, il y a une petite fille qui supporte pas sa belle-mère, qui est ravie d'être là, mais qui pleure parce qu'elle a mal. Donc il est obligé d'avoir une intervention, entre guillemets, personnalisée. Et là, tout d'un coup, il découvre.
C'est ça, oui. Effectivement, il découvre quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas, notamment parce qu'il part en classe verte, et que la classe verte, c'est pas juste de la classe, justement. C'est le soir aussi, où un enfant qui a l'air d'un petit dur toute la journée... finalement provoque une bagarre pour se retrouver tout seul dans une chambre et pour pouvoir pleurer un bon coup en pensant à sa maman, parce qu'évidemment il ne va pas montrer ça à ses copains. Et il est décontenancé par ça, parce qu'en fait, comme c'est un peu un grand adolescent, jusque-là il s'occupe que de lui, de sa compagne qu'il aime beaucoup, de ses petites préoccupations, et d'un coup il se retrouve en face non plus d'élèves mais d'enfants, ce qui est un peu différent, et notamment de cette petite fille qui vient tambouriner à sa porte la nuit. Alors on ne sait plus vraiment si c'est parce qu'elle a mal ou c'est parce que comme elle a l'autorisation de venir tambouriner à sa porte, elle en profite un petit peu parce qu'elle a besoin d'attention. Et petit à petit, effectivement, il va donner tout ça parce que c'est quand même assez difficile de refuser ça aux enfants.
Est-ce que c'est vrai que la façon d'ouvrir une porte, ça peut conditionner le comportement des élèves, le fait de lancer sa sacoche sur le bureau comme un cow-boy qui va boire une bière, c'est impressionnant quand même. Et puis faire attention à la craie qu'on va prendre pour pas qu'elle casse au moment où on la prend.
J'y crois quand même un peu à cette histoire. D'ailleurs, je m'en amuse aujourd'hui parce que je suis un peu plus détendu, évidemment, avec le temps. Ça fait quelques années maintenant que je suis enseignant. Et comme je porte souvent des bottes, maintenant, par goût, hein, parce que j'aime bien les bottes, je trouve ça joli, souvent je fais tourner la clé autour de mon doigt, comme ça le matin, comme un revolver, j'ouvre la porte avec un geste très sûr. En fait, c'est un peu en référence à ce que j'ai écrit dans ce livre qui m'amuse beaucoup, mais je crois que quand même, ça pose un peu... un peu l'enseignant, ça. D'avoir des petits gestes, des choses qui font que les élèves nous trouvent à moitié bizarres, mais quand même un petit peu intéressants, en fait. Ça les accroche. Moi, j'ai des souvenirs comme ça de profs qui faisaient comme ça des choses absolument curieuses, étranges, mais qui, quand même, nous attiraient. Et j'ai compris plus tard, en étant enseignant moi-même, que certainement, ils le faisaient exprès, en fait, ça. Et je trouve que, voilà, au-delà du clin d'œil humoristique au western et à Clint Eastwood, c'est quand même assez vrai, cette histoire. Que, effectivement, si on se saisit de la craie en tremblant et qu'on la casse en deux, le jour de la rentrée, qu'on a des élèves, on va dire, pas forcément disposés à travailler, mais plutôt à chahuter, ça va créer plus de soucis que si on a l'air quand même assez sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on écrit.
Non, j'ai entendu il y a pas longtemps sur les ondes que les professeurs travaillaient pas beaucoup. Et quand on vous lit, on est quand même un petit peu scotché. Il est à la fin de la soirée, il se fait tard, c'est bientôt minuit, il est agacé parce qu'il sait que le speaker de France Inter va annoncer une nouvelle journée, et lui, il n'a pas fini l'ancienne. Et il faut tout préparer le lendemain, vous dites, il ne faut laisser aucun espace au hasard.
Oui, alors j'ai d'ailleurs longtemps détesté ce brave homme, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui présentait les infos à minuit sur France Inter, s'il les commençait par « bonjour ». C'est terrible qu'on nous dise « bonjour » au moment où on n'a toujours pas fini de préparer cette journée qui, pour nous, n'a pas encore commencé. Ne laisser aucun espace au hasard, c'est d'autant plus vrai quand on a des classes un peu difficiles, parce que les moments d'hésitation, parce que le moment où on va aller chercher des feuilles dans le placard, parce que le moment où on a besoin de sortir de la classe pour aller, j'en sais rien, moi, rincer son éponge, c'est des moments de chahut potentiels. Et effectivement, alors je ne sais pas sur quelles ondes vous avez entendu que les professeurs travaillaient très peu.
Des ondes très connues, les mêmes peut-être.
C'est peut-être les mêmes. Ce sont sûrement des ondes qui se renseignent peu auprès d'enseignants. Parce que moi, quand ce livre a été quand même pas mal lu par des enseignants, notamment des enseignants débutants, puis même des enseignants plus chevronnés, et la plupart d'entre nous, on travaille à l'école, évidemment, mais quand on sort de l'école, notre journée n'est pas finie. Et puis souvent, elle reprend après le coucher de nos enfants. Il faut bien préparer demain. Alors effectivement, aujourd'hui, avec l'expérience, on va dire un milieu scolaire plus calme, je peux laisser quelques espaces au hasard, mais pas tant que ça non plus, parce que c'est une responsabilité de s'occuper de l'instruction et de l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'on peut ne rien faire du tout, mais on a un peu honte quand même d'avoir pas grand-chose à leur proposer. Là, actuellement, j'ai des enfants de CP. Je sais qu'ils vont faire un an de CP dans leur vie, pas deux, quoi. Enfin, je l'espère pour eux, d'ailleurs. Mais et que si j'ai pas envie de travailler, moi, du coup, eux vont travailler moins bien. Donc, oui, c'est un métier où on travaille. Et on peut laisser un peu d'espace au hasard quand on a un peu l'habitude. Mais en tout cas, au début, c'est plus compliqué.
Le titre, des plumets et du goudron, vous avez pensé au Dalton ?
Oui, c'était vraiment... Alors le titre est venu très tard. J'avais trouvé un titre qui me plaisait pas du tout. J'avais appelé ce livre « Futur simple », on aurait dit un manuel de conjugaison. Donc c'était pas terrible. Et j'étais, comme mon personnage donc évoluait un peu dans une panoplie de cow-boys, je cherchais une référence au western. J'ai épluché tous les titres des films avec Clint Eastwood parce que j'aurais bien aimé en placer un. Pale Rider me plaisait beaucoup, mais c'est un titre anglais, donc c'est... Pour de la littérature française, ça allait forcément être extrêmement mal vu. Et un jour, je sais pas, d'un coup, ça m'est venu des plumes et du goudron, parce que c'est quand même un supplice, c'est une punition. Et puis ça évoquait plein de choses, des plumes et du goudron, le goudron de la cité. Les plumes, c'est un peu l'envol de ce jeune homme qui va devenir... Enfin, de ce vieil adolescent, plutôt, qui va devenir un homme. C'était, pour moi, assez polysémique. Et effectivement, il y avait une référence effectivement à Lucky Luke, au Dalton... quelque chose de cet ordre-là parce que ça me plaisait bien, parce que c'est enfantin aussi, du coup, pour le coup, Lucky Luke.
Alors, il y a des moments quand même, Louis fait tout ce qu'il peut, il travaille énormément, puis il y a quand même des moments de grande solitude. Hein. On le voit au matin, là, je pense qu'il a éteint les lumières, il boit un café, il est tout seul, la classe va partir au château de Polémieux, il est vraiment seul.
Oui, il a des grands moments de solitude, c'est-à-dire que ce moment-là, c'est donc il va partir pour une semaine en classe verte avec ses élèves. Il sait qu'en classe, déjà, il a un petit peu du mal à les faire travailler. Et là, donc, il sait que pendant une semaine, il va être en gros l'unique responsable de leur vie. Il va être leur papa, leur maman, leur infirmière. Il sent bien aussi qu'il ne sait pas faire, il sait pas vraiment faire tout ça. Donc, c'est aussi ça qui crée le grand moment de solitude. C'est de se dire, est-ce que je vais y arriver et puis, comment je vais faire, quoi.
Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule à qui ce soit que je m'adresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu. Les pouces mégots et les nez de beaux, les ringards, les folques, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où j'en ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sous le zinc d'un bistrot les plus cralingues. Et bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démagos dans leur torchon que je n'irai jamais. Renon c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon je chante pas pour ces blaireaux et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. Quand il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que les mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes. Je dois dire celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne. Rien à foutre de la lutte de classe, tous les systèmes sont dégueulasses. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Puis qu'on m'a tiré mon canif un soir au métro Saint-Michel. Je peux plus les pieds dans une manif, sans un nunchak ou un cocktail. À Longwy comme à Saint-Lazare, plus de slogan façon flicard, mais des fusils, des pavés, des grenades. Violer contre la répression en défilant Bastille Nation. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nez de bœuf et aux pouces mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je m'en trouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Valère. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.
Toujours sur Cool FM 97.1. Pour Christophe Desmurger, Où c'est que j'ai mis mon flingue, la chanson de Renaud, est à l'origine de son envie d'écrire. À 8 ans, le romancier voulait devenir Renaud. Le titre constitue en outre, comme une sorte d'écho à Des plumes et du goudron, son premier roman.
Quand il évoque les enfants de sa classe, il se dit qu'ils n'ont pas les mêmes chances que les autres enfants qui ont un manteau bien boutonné.
Ben c'est malheureusement vrai dans le livre, et puis c'est malheureusement vrai dans la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, il constate que l'égalité des chances, qui fait partie de la devise de la République, c'est on va dire une égalité toute relative. C'est-à-dire qu'effectivement, les enfants qu'il a dans sa classe, il faudra qu'ils se battent 10 fois plus que tout le monde pour arriver au même résultat. Et des fois, ils n'ont pas cette énergie, pas cette force de se battre autant. Et c'est aussi ça qui fait parfois ces moments de solitude. C'est-à-dire qu'il a, il en face une responsabilité énorme, Louis, qui est peut-être un peu trop grande pour ses petites épaules. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a besoin de convoquer Clint Eastwood, Lucky Luke, pour se sentir un peu plus fort, quoi. Mais c'est vrai que sur cette question de l'égalité des chances, malheureusement, elle n'existe pas.
Est-ce que je peux demander au romancier, pas au professeur, s'il est optimiste sur l'école en 2016, son devenir potentiel, éventuel ?
Je ne suis pas très optimiste sur l'école. Alors, je ne suis pas très optimiste au vu de ce qui s'y passe aujourd'hui. Alors, là où je reste optimiste, c'est que je me dis que peut-être les choses changeront à l'avenir. Mais en tout cas, au vu de comment ça fonctionne aujourd'hui, non, je ne suis pas très, très optimiste. J'aimerais bien l'être, mais j'y arrive pas.
Mais il y a quand même des gens comme Louis. Enfin, le lecteur que j'ai été a l'impression que pour lui, en tout cas, et donc pour sa classe, il s'est vraiment passé quelque chose à la fin de cette année. La preuve, il y a ce papa de Cadour qui vient lui serrer la main. Je ne sais plus quelle formule il a, mais c'est très beau ce qu'il lui dit.
Alors, il y a un optimisme local. C'est-à-dire, effectivement, je croise en tant qu'enseignant, je croise aussi en tant que parent d'élève, puisque j'ai la chance d'avoir deux enfants. Des enseignants formidables, des Louis, j'en crois, c'est pas un cas isolé, ce jeune homme dont je parle dans ce livre. Des gens qui croient, qui effectivement font des choses, qui au bout du compte ont marqué positivement les élèves. Mais c'est aussi un peu l'objet de la fin de Des Plumées du Bourron, je ne vais peut-être pas révéler complètement pour les gens qui l'auraient pas lu. Mais quand on remet ça en perspective sur l'avenir, et est-ce qu'une année scolaire qui s'est très bien passée, ça fait le poids par rapport à une société qui malheureusement crée des laissés pour compte, je suis pas sûr. D'où le pessimisme général, on va dire.
Alors Louis, avec tous ses efforts, il ne se sent pas encore prêt à abandonner le costume dont on parlait au début de l'entretien. Qu'est-ce qu'il lui manque ?
Il lui manque un peu de maturité, je crois. Il lui manque.
C'est quoi la maturité ?
Il lui manque, ce que je vous disais tout à l'heure, cette force qui va essayer de puiser chez Clint Eastwood à l'extérieur, elle lui manque un peu à l'intérieur. Et je crois qu'à la fin du livre, il l'a, parce qu'en fait, cette force, on la puise notamment de nos réussites. Louis, pour moi, il réussit son année, c'est-à-dire que il réussit son année parce qu'il est arrivé avec cette classe à ce qu'il se passe quelque chose, pas forcément à ce qu'ils soient tous d'excellents élèves. Ils continueront à chahuter, etc. Mais humainement, il s'est passé vraiment quelque chose. Et c'est ça qui lui manque, je crois, au début de l'histoire. Et c'est peut-être ça qu'il a gagné à la fin, c'est-à-dire peut-être d'intégrer quelque chose de Clint Eastwood plutôt que de porter ses bottes et son chapeau.
En fait, vous le dites avec d'autres mots hein, dans le roman. Quand vous dites le maître, au moment où il dit « asseyez-vous » à ses élèves, il doit avoir l'assurance qu'ils vont s'asseoir. Et il s'asseye.
Oui, alors ça moi, je l'ai observé.
C'est ça, la maturité.
Oui, c'est ça. Mais ça, je l'ai observé en tant qu'enseignant, cette fois, pas en tant que romancier, qu'il y a des jours, on est absolument sûr de nous. C'est-à-dire, ces jours-là, tout se passe bien. Voilà, on dit aux enfants de s'asseoir, ils s'assoient, prennent leur cahier. On se fâche, ils se taisent. Et puis, il y a les jours, on est en dessous, je pense, on a mal dormi ou j'en sais rien. On a eu des petits soucis qui font qu'on n'est pas complètement dedans. Et là, c'est avec toutes les classes, hein. Ça c'est pas forcément avec un public particulièrement difficile, et rien ne marche. C'est-à-dire que, voilà, on leur dit de s'asseoir, il y en a trois qui sont debout, on finit par s'énerver. Et j'ai une deuxième figure, moi, récurrente, qui me revient quand je me sens plus Clint Eastwood, c'est celle de Jean-Pierre Bacri. Il y a des jours où je fais du Jean-Pierre Bacri en classe, c'est horrible. J'adore Jean-Pierre Bacri, hein, mais je parle de Jean-Pierre Bacri dans ses rôles, vous voyez, de ronchonneur inefficace, qui se met à maugrer tout seul. Et voilà, la force de l'enseignant est celle qui va être celle de Louis, c'est d'intégrer plutôt Clint Eastwood que Jean-Pierre Bacri.
Alors, comment est-ce qu'on passe d'un professeur d'école qui cherche crânement sa voix à un écrivain qui a besoin de vivre, qui ne vit pas de ses livres, donc qui multiplie les petits boulots, société de nettoyage, travaux publics, fabrication d'amortisseurs de lave-linge, et puis qui quand même, on ne sait quel miracle, devient chef d'entreprise d'aide à la personne.
Alors, en fait, les choses se sont passées à l'inverse. Il y a déjà un petit moment, j'ai écrit un recueil de nouvelles. La dernière de ces nouvelles s'appelait « L'assassinat de Gilles Marzotti ». J'ai eu la chance de rencontrer une directrice littéraire formidable qui s'appelle Elisabeth Samama, qui travaillait à l'époque aux éditions Fayard, qui lit ce recueil de nouvelles et qui me dit « J'adore ce que tu fais, je trouve que tu écris très bien. » On a eu un entretien d'une heure comme ça, dont je suis ressorti absolument à la fois émerveillé et désespéré, parce qu'elle me dit « Bon voilà, t'écris très bien, j'aime beaucoup, mais t'es pas connu, les nouvelles ça se vend pas, donc si on parle là-dessus, tu vas en vendre deux. » Et au fil de l'entretien, on avait parlé de ma profession, professeur des écoles, de l'année scolaire 2001-2002. Et là, elle me dit, là, on a un vrai sujet. Ta façon de raconter cette année scolaire est très romanesque, tu devrais l'écrire. Alors, je suis sorti donc un peu désespéré, en même temps rassuré en tout cas sur le fait que je pouvais convaincre une éditrice. Et je me suis dit, je vais le faire, ce livre. Je me suis fixé un an pour l'avoir fini. Alors un an, c'est pas parce que j'ai écrit pendant un an, c'est parce que ben voilà, j'ai un métier, des enfants, plein d'autres choses à faire. Donc le livre Les Plumes du Goudron est sorti, mais comme je suis quelqu'un d'extrêmement têtu, je me suis dit, Gilles Marzotti, elle m'avait dit d'ailleurs, cette nouvelle, elle est vraiment, elle était presque trop dense, il y avait trop de choses dedans. Je l'ai relu, je me suis dit, il y a un roman là-dedans. Et je suis parti, donc j'ai repris cette nouvelle que j'ai détricoté, où en fait on avait après, en gros plutôt la fin du livre, ça correspondait à la fin du roman, et je me suis dit en fait ce que je vais écrire c'est comment il en arrive là. Donc en fait les choses se sont passées dans l'autre sens. J'ai écrit d'abord quelque chose qui était l'assassinat de Gilles Marzotti, qui à mon sens est un livre, une histoire peut-être plus personnelle, même si ça raconte pas du tout ma vie. Mais c'était une petite vengeance personnelle. En fait, j'ai connu, quand j'étais étudiant, un conseiller financier, que j'étais allé voir, je ne sais pas pourquoi, pour obtenir une facilité quelconque, parce que j'avais un peu du mal à payer mon loyer. Et je lui avais dit, parce qu'à l'époque, je venais d'écrire un roman qui n'a jamais été publié, mais qui a failli l'être par une maison d'édition lyonnaise. Et je lui dis, vous savez, c'est passager, mes petites difficultés, j'écris, je vais sûrement avoir un contrat d'édition. Et il avait accueilli ça avec un espèce de rictus, de mépris, qui m'a profondément, presque insulté. Ce livre est né d'un profond désir de vengeance, on va dire.
Alors, cet homme, quand même, il est très troublant, il s'appelle Raoul Cordet, je crois. Il est heureux, il gagne sa vie, bon, pas trop mal, vaille que vaille, ça dépend des jours. Il écrit un premier roman, au vu de quoi son éditrice lui demande d'en écrire un second, peut-être moins de succès que le premier, et puis quand il doit se mettre au travail pour commencer le troisième, le voilà pris dans un tourbillon de difficultés, notamment financières, mais pas que, et puis de grands moments d'incertitude.
Raoul, c'est un personnage qui a du mal avec le bonheur, en fait. Il aspire au bonheur, c'était un peu ça aussi le sujet de ce livre, cette espèce de dictature du bonheur qu'on a aujourd'hui. Il faut être heureux, il faut être détendu, il faut être sportif, il faut être beau, il faut être tout. Et puis à défaut d'être tout ça, en tout cas, il faut le montrer. Et Raoul, lui, il veut tout ça, il veut être beau, il veut être heureux. Et effectivement, il construit des choses pour ça, il écrit, c'est ce qu'il a envie de faire, il rencontre une femme, je pense que tout le monde a envie de rencontrer cette femme. Mais il se prend les pieds dans le tapis, parce que c'est quelqu'un qui, quelque part, le bonheur, ça lui fait peur. Donc il le recherche, mais quand il l'a, alors c'est très inconscient chez lui, il fait tout pour mettre tout par terre, en fait. C'est le drame de ce personnage, c'est le drame de beaucoup de gens. C'est en observant notamment des gens comme ça, très dans la course au bonheur, que ça m'a inspiré ce personnage. Je trouve que de vouloir être heureux, ça rend un peu malheureux souvent.
Il l'a trouvé, le bonheur, hein. Il dit « je n'ai plus besoin de courir, j'ai trouvé ». Et puis très rapidement, quelques pages après, voire même, il ne peut pas se départir d'un certain fatalisme. Il a un bobo à l'estomac, manifestement, on n'a pas envie de pleurer quand il nous en parle. Il prend un rendez-vous, il se décide, il est héroïque, il se décide à prendre un rendez-vous chez son médecin, et vous lui faites dire, peut-être qu'il faut toujours une petite ombre au bonheur. En fait, le problème, c'est le bonheur, ce n'est pas son estomac.
Je crois que c'est vraiment ça. Je l'explique dans le livre, c'est quelqu'un qui n'a pas une enfance très heureuse. Il a perdu sa mère très tôt. Alors, sans vouloir en faire un roman psychologique, je crois que ça explique sa problématique. C'est quelqu'un qui a perdu un immense bonheur très tôt. Et du coup, le bonheur, pour lui, la peur de perdre le bonheur et le conduit à ça. C'est-à-dire, ce qui lui fait mal à l'estomac, je pense, c'est pas le bonheur, c'est qu'il a tellement peur de le perdre qu'il le gâche. Ça me fait penser à cette magnifique chanson, enfin en tout cas le titre de la chanson, même la chanson d'ailleurs, de Serge Gainsbourg, qui est « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». C'est un peu sa problématique.
C'est quand même impressionnant. Ils ont un petit, Mathéo. Un jour, il le prend dans ses bras, sa maman n'est pas là, je crois. j'ai honte. Je ne m'en sens pas digne.
Oui, parce qu'il était déjà dans des difficultés financières. Il s'est fait un peu avoir aussi dans le discours, on va dire, commercial, très rodé des vendeurs de matériel pour enfants. C'est-à-dire, par exemple, quand on va dans un magasin pour acheter un matelas pour le lit d'un bébé, vous avez un vendeur très sympathique qui vous explique qu'il en a un qui coûte 20 euros avec lequel votre enfant aura une scoliose, et puis l'autre, celui qui berce le dos, qui aura intelligent et qui lui permettra donc de faire de grandes études, mais que celui-là, évidemment, ça a un coût, ça coûte 200 euros. Raoul, lui, il achète celui qui coûte 200 euros dans ce cas-là. Mais il se met, du coup, dans des difficultés financières, et c'est ce qui fait qu'il a honte après. Cet enfant qu'il regarde avec un amour, avec une espèce de... Un tout petit enfant, quand il regarde ses parents, c'est un peu comme s'il regardait Dieu, quoi. Genre, il ne sait pas que ses parents ont des failles. Et c'est pour ça qu'il a honte, lui. Il pense que avoir des failles devant son petit enfant, c'est terrible. Il a à en avoir honte.
Alors son gros problème, quand même, c'est pas le seul, hein, vous venez de le dire, mais son gros problème à Raoul, c'est qu'il dépense plus qu'il ne gagne.
À un moment, je crois que c'est une conseillère financière qui lui explique.
Madame Raymond.
Voilà, Madame Raymond, qui elle est très gentille. Et elle lui explique qu'en fait, voilà, votre problème, c'est que vous dépensez 10% de trop. Quand vous gagnez 100 euros, vous en dépensez 110. Alors quand on gagne 100 euros, quand on dépense 110, ça fait 10 euros de dette. Sauf qu'à un moment donné, comme il gagne plus d'argent, finalement, ça crée plus de dette. Parce que les 10%, ben, ça fait plus d'argent. Et il a toujours de bonnes raisons, en fait, de dépenser trop. C'est pas quelqu'un qui est dans l'appât du gain ou qui veut, comment dire, absolument une vie que de confort. Mais il se fait avoir comme ça. Par exemple, ce que je disais sur le matériel pour son enfant. Parce qu'il considère que bon, son enfant doit avoir une vie confortable. Il considère que quand il achète une voiture, c'est pareil. Il va quand même voyager dans cette voiture avec Nicole, qui est presque une déesse, quoi. Et son enfant, qui est une merveille, il ne peut pas voyager dans une voiture minable, quoi.
Alors, il y a quelques périodes où les affaires sont florissantes, notamment quand il crée cette entreprise en province d'assistance à la personne, notamment les personnes âgées, ça marche bien. Puis... tout de suite, il replonge dans son péché mignon, c'est-à-dire que les dépenses. Arrive un jour où Nicole doit ouvrir, je pense, un relevé bancaire. Enfin, je ne sais plus, elle s'aperçoit de la catastrophe.
Oui, alors ce qui le déconsidère à ses yeux, c'est qu'en fait, depuis le début, il lui ment, en fait. Enfin, il ne lui ment pas, il ne lui dit rien. Oui. C'est-à-dire que toute cette affaire de dettes qui s'accumulent, qui sont des petites dettes, mais qui, à force, finissent par être importantes, il n'en dit absolument rien à Nicole. Alors, il lui dit rien au début, ce qui fait qu'ensuite, il s'enferme là-dedans. Parce que s'il n'ose pas lui en parler au début, quand c'est pas encore très grave, il ose encore moins quand ça le devient plus. Et le malheur, c'est que du coup, elle le découvre sans qu'il lui ait jamais rien dit. Et du coup, elle tombe de haut, non pas parce qu'ils ont des difficultés financières, mais parce qu'elle pensait qu'il n'était pas capable de lui mentir, qu'ils avaient une relation de pleine confiance. Et elle est déçue. Et c'est terrible, ça, dans un couple, la déception.
Et donc arrive ce qui devait arriver, ils se séparent ?
Oui, à un moment donné, elle ne peut plus, vivre avec lui, puisqu'il est... alors, c'est pas juste le problème financier, c'est que c'est quelqu'un, alors même si j'emploie jamais le mot dans le livre, qui est dans une dépression. Il dit qu'il vit dans un trou, que dans ce trou-là, en fait, les gens sont des illusions, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à communiquer avec eux, c'est ce que ça veut dire. Et en fait, elle s'en va parce que il s'est enfermé, il s'est isolé, il est tout seul et que pour elle c'est insupportable.
C'était quoi votre intention en approfondissant ce personnage, son caractère?
Oui, alors je crois que quelque part il y a une dimension sociale là-dedans. Un peu ce que je disais tout à l'heure sur cette espèce de dictature du bonheur, sur un monde où l'argent est quand même à une place beaucoup plus importante qu'il ne devrait avoir, sur une société où paraître devient presque plus important qu'être, et où finalement les gens qui se font des fois avoir par ce système-là sont des gens qui au départ sont plutôt des rêveurs, des gens qui ont des illusions, qui font pas attention justement à ça. Et lui, c'est un peu son cas. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux questions d'argent a priori. Il se fait un peu avoir, en fait. Ça m'intéressait. Et puis un peu comme dans le premier, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Clint Eastwood et l'anti-héros, j'ai toujours été, moi, très fan de la littérature, des gens qui ont un parcours tordu, des gens qui marchent pas droit, des gens qui ont besoin de béquilles. Je trouve que d'un point de vue romanesque, c'est des gens très intéressants, et puis même d'un point de vue dans la vie, j'aime bien les gens comme ça, en fait.
comme on prend peur des araignées. Je ne savais plus où me planquer. Le fond du trou, l'envie de gerber. Je n'ai toujours pas payé la facture d'électricité. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver? Nous ne sommes plus les mêmes depuis samedi dernier. Tu sais, je l'avais pourtant rangé avec l'échographie du bébé. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. J'ai perdu la force de prendre les armes. J'ai perdu la foi, j'ai perdu mon âme. Qu'est-ce qui a bien pu se passer depuis que je me suis fait licencier? Je perds la tête dans mes pensées, j'en oublie même de te toucher. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. Je n'ai plus l'écorce, j'ai perdu mon âme. J'ai perdu la foi, j'ai perdu le charme. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. J'ai perdu la force de prendre les armes. J'ai perdu la foi, j'ai perdu mon âme. J'en arrive même à t'oublier, parfois Clara. J'en arrive même à te trahir, parfois Clara. J'en arrive même à te maudire, parfois Clara. J'en arrive même à te trahir, parfois Clara.
Toujours sur Couleur FM, deuxième chanson choisie par Christophe Desmurger, La facture d'électricité, interprétée par Miossec. Il y a dans cette chanson une ambiance proche du second roman de Christophe Desmurger, pour qui Miossec est le plus grand poète français et réussit en quelques phrases à nous embarquer dans une histoire comme d'autres dans un roman.
En fait, oui, il y a deux choses. Il y en a une, la première qui m'a frappé, c'est quand ils sont séparés. Il s'apprête à recevoir un week-end par tous les 15 jours son fils, Matteo, et tout d'un coup, le voilà doté d'une énergie faramineuse pour refaire complètement l'appartement. Au départ, il refait la chambre, puis il s'aperçoit que ça ne peut pas tenir, il fait tout l'appartement. Il a quand même des moments où on a l'impression qu'il se secoue, qu'il prend la vie à bras-le-corps. Et...
Oui, il a des vrais moments d'énergie. Par exemple, quand il fonde sa petite entreprise d'aide aux personnes âgées, il s'investit dedans. Là, pour la peinture de l'appartement, au départ, il s'agissait de repeindre la chambre de son fils. Et puis finalement, il s'est dit que le reste n'était pas beau. C'est souvent, ça arrive. Genre, on repeint une pièce, puis on se dit, tiens, finalement, il faut que je repeigne la porte. Puis maintenant que la porte est repeinte, le mur du couloir n'est pas beau. Enfin bref, il repeint tout l'appartement, mais c'est aussi ça son piège. C'est-à-dire qu'il s'engouffre dans des choses jusqu'à s'enfermer dedans. Là, au moment où il repeint son appartement, il n'est plus que là-dedans. C'est-à-dire qu'il vit dans de la peinture blanche. Quand il ferme les yeux, il voit un monde tout en blanc. Et ça fait partie de sa personnalité, de faire presque les choses trop fort et de se noyer dedans.
C'est au romancier que je m'adresse, c'est-à-dire que c'est plus Louis, c'est vous, quand vous le faites sortir, se balader dans Paris, revenir vers le lieu où ils avaient habité précédemment. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fois, lui, de toute évidence, on ne sait pas ce qui va devenir, mais enfin, il sombre complètement dans la déprime, puis en même temps, il voit tout. Et il voit notamment les transformations qui sont opérées dans le quartier. C'est très intéressant parce que, en même temps, vous nous faites toucher du doigt ce qui s'est passé en 10 ans. Et ce double regard que j'ai trouvé très, très, très intéressant.
Oui, alors notamment ce qu'il voit dans son quartier, c'est pas sans lien avec sa problématique. Ce qu'il voit, c'est que le petit magasin où on vendait des lampes a fermé. Ce qu'il voit, c'est que la place est une agence immobilière. c'est des choses comme ça qu'ils voient. Il y a aussi quelque chose qui est assez terrible, c'est qu'ils voient aussi la fenêtre de leur appartement, là où ils ont vécu leur meilleur moment, et puis ils voient le rideau qui n'est plus le leur. Ils imaginent ce qu'il peut y avoir derrière, c'est peut-être un autre couple. Et c'est là où c'est comme un brave type, Raoul, c'est qu'en fait, ils se disent ça, je ne leur souhaite pas de mal. J'espère pour eux, ça va fonctionner. Ce n'est pas quelqu'un qui, sous prétexte qu'il, lui, il a du mal, qu'il a tendance à sombrer, souhaite forcément du mal aux autres. À part, évidemment, à Gilles Marzotti, à qui il ne souhaite pas avoir du bien.
Et donc, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, bien sûr, ce que vous venez de dire, mais en même temps, c'est ce vieux bistrot qui est enclavé pour cause de travaux, puis tout d'un coup, les travaux sont terminés, il bénéficie d'une immense terrasse. Il y a, je ne sais plus, je crois que c'est un salon de coiffure qui devient, je ne sais plus quoi, mais rien à voir avec une prestation.
Oui, puis c'est des choses qui nous parlent, parce que, d'avoir quitté des lieux, puis de revenir, et de regarder, des fois avec mélancolie, ce que c'est devenu. Ça, je l'ai vécu. Alors, je n'ai pas vécu, évidemment, toutes les tribulations de Raoul, mais j'ai connu le départ, comme lui, à Paris, et le retour de temps en temps sur mes terres lyonnaises, et de retourner, effectivement, dans mon ancienne rue, de constater le changement. Alors, effectivement, il y a des changements positifs. Ce petit bistrot qui tient le coup, malgré 3 ans de travaux, parce qu'on a construit un parking géant autour, et qui est toujours là. C'est le symbole d'une forme de résistance qui est très sympathique. Et puis, de l'autre côté, moins sympathique, de voir fleurir, comme on le voit d'ailleurs partout, des agences immobilières avec la banque en face, puisque c'est quand même plus pratique. Et puis le cabinet d'assurance, tout ça remplaçant souvent des petits commerces. Et je trouve que ça nourrit aussi, je pense, une histoire. C'est pas juste du décor, quoi.
Il y a un chapitre qui m'a semblé particulièrement long. Est-ce que vous pourriez nous le résumer ? C'est l'épisode de l'armoire.
Oui, alors l'armoire, en plus je l'ai raccourci.
Ah bon ?
Oui. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. Alors, l'histoire de l'armoire, c'est qu'en fait, donc, Raoul et Nicole déménagent. Ils déménagent parce que, comme le dit Raoul dans l'histoire, Nicole a toujours rêvé d'habiter à Paris, et lui, il la suit dans son rêve parce qu'en fait, ce qui est important pour lui, c'est d'être avec Nicole. Où il habite, c'est pas tellement ça son problème. Alors, il y a toute une il a plein de péripéties avec son déménagement parce que. Il loue un camion lui-même parce qu'en fait, il n'a pas suffisamment de moyens pour prendre des déménageurs, mais on lui vole son permis. Alors, normalement, il ne devrait pas conduire le camion. Enfin bon, il y a plein de problèmes. Et il y a notamment cette armoire qui est presque un personnage de l'histoire, puisqu'elle apparaît souvent, qui est une armoire qu'avait achetée Nicole quand elle était jeune étudiante, qu'elle avait complètement retapée puisque c'était une vraie ruine, et qui les a suivis dans toutes leurs aventures amoureuses. Et qui donc, évidemment, part avec eux à Paris. Et le problème, c'est qu'elle ne passe pas par l'escalier, en fait. Et donc, elle se retrouve coincée. Ce passage est long, mais moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, l'armoire, c'est presque Raoul qui est coincé dans l'escalier. Il est coincé, il le dit d'ailleurs, s'il n'avait pas tous ces problèmes d'argent qu'il s'est créé lui-même, ils auraient pris des déménageurs, ils auraient passé l'armoire par la fenêtre, ouais, ils seraient tranquilles. À cause de ça, peut-être ils vont être obligés de se séparer de cette armoire. Alors, ils ne trouvent pas de solution, et il y a un déménageur qui tombe du ciel en proférant un peu des insanités, et qui va les aider, parce que tout le livre est, je crois, jalonné de personnages comme ça, qui sont des personnages presque venus du ciel, pour l'aider, qui lui tendent la main, qui lui tendent des perches. Et Raoul, son problème, c'est quand on lui tend une perche, il a la fâcheuse tendance, au lieu de la saisir, de la prendre dans la tête, en fait. Mais là, pour le coup, l'armoire est sauvée.
Alors, elle est sauvée après des épisodes. Il faut lire le livre, c'est plus que cocasse. Et puis alors, l'espèce de point d'orgue de cette histoire de l'armoire, c'est que quand son ex veut la récupérer, elle envoie 2 personnes, et l'armoire passe toute seule dans les escaliers, presque.
Oui, parce que comme cette armoire, donc, on lui a raboté les pieds pour finalement arriver à la faire rentrer dans l'appartement, le jour où elle repart, c'est extrêmement triste. Effectivement, elle s'en va comme ça, d'un coup, sans dire au revoir, ce qui est un peu normal pour une armoire, mais il y a quelque chose, c'est quelque chose d'ailleurs qui me tient à cœur, ça, dans l'écriture, de presque décrire des sentiments, des émotions en passant par les objets. L'armoire qui s'en va, c'est pour moi presque plus efficace que de faire des pages et des pages sur le sentiment du désarroi amoureux. C'est comme à un moment donné, il est dans sa cuisine et il se fait 2 cafés, en fait. Il vit tout seul, il se fait deux cafés. C'est à ça qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment seul.
Comment est-ce que vous écrivez ? Est-ce que vous affinez petit à petit ? Est-ce que vous avez un canevas de départ très 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 clair ?
Oui, alors ce qui fait que mes premiers écrits n'ont jamais été publiés, c'est que j'avais une fâcheuse tendance à écrire, on va dire, tous azimuts. J'écrivais la fin avant le début, après j'écrivais le milieu. Je me disais que je fais ce que je veux, je suis écrivain. Finalement, j'ai jamais été publié, et donc la directrice littéraire des éditions Fayard m'a donné quelques conseils. Et maintenant, j'écris de façon très scolaire, je dirais, pour en revenir à ma profession. C'est-à-dire que je fais un plan, je sais très exactement, même si par exemple Raoul, lui, sait pas du tout où il va, moi je sais où il va. Ou je sais surtout où il va pas, quoi. Mais en tout cas, je fais un vrai plan, j'écris toujours et le début et la fin, tout de suite, parce que c'est comme quand on part en vacances, en fait, d'écrire un livre. Si on part pas en vacances, si on sait pas où on va, quoi. Enfin, on peut le faire, je veux dire, mais c'est plus des vacances, c'est une errance. Ça peut être très intéressant, une errance littéraire, mais en tout cas, moi, j'ai besoin, en tout cas, de savoir où je vais. Et ensuite, je fais un plan très, très séquencé. Et après, je laisse vivre les choses comme j'ai un métier toute la semaine. Je me dis, tiens, ce week-end je vais écrire, j'en sais rien, le passage où l'armoire est coincée dans l'escalier. Je laisse les choses, décanter, parce qu'en fait je me suis aperçu qu'écrire, c'est pas passer beaucoup de temps forcément devant son ordinateur. C'est tout le reste, c'est le moment où justement, parce qu'on sait ce qu'on veut écrire, on regarde les gens différemment dans le bus, on regarde le décor du bar, on s'intéresse à des choses qui peut-être nous échapperaient sinon. Et en plus, c'est ce que j'aime faire, parce que moi, je crois que j'écris notamment parce que ça me permet de me balader dans un monde qui n'existe pas par moment, de voir d'avoir plusieurs vies, on va dire. Et du coup, d'être comme ça en situation d'écriture. On est un peu le personnage, alors on regarde les décors et les gens différemment, et c'est très intéressant. Et après, donc, après tout ça, je m'enferme chez moi, en sauvage, la nuit, avec un casque sur les oreilles et de la musique. Et là, je suis devant mon PC, et j'essaye d'écrire quelque chose, vraiment.
Vous prenez des notes, hors écriture, parce qu'il y a des personnages dans vos deux romans qui ne sont pas que des comparses.
Alors, je prends rarement des notes depuis que sur France Inter, c'est décidément France Inter, en fait, a une importance capitale dans ma vie. Un jour, j'ai entendu un écrivain sur France Inter qui disait qu'en fait, il prenait jamais de notes parce qu'en fait, il s'était aperçu que les bonnes idées restent et que les autres s'en vont. Et je me suis aperçu qu'il a pas complètement tort. Alors, des fois, je prends des notes parce que j'ai pas le temps, ou par exemple, j'ai pas mon ordinateur sur moi. Là, par exemple, dans le train, tout à l'heure, je suis pas venu avec mon ordinateur. Donc là, j'écris, par exemple, sur des papiers, le plan, ce que je vais faire après. Mais sinon, je note rien. Je vous dis, j'essaye de me laisser imprégner, en fait, par des ambiances, par des gens. Là, les amis de Raoul, sont très, très inspirés de mes amis. C'est presque un éloge de l'amitié, cette histoire-là, quand même. Parce que c'est son refuge, son dernier refuge, quand vraiment tout va mal pour Raoul. C'est ses amis qui l'accueillent sans condition, sans condition. C'est-à-dire qu'il, même s'il ne les a pas vus depuis 5 ans, il l'accueille comme s'il l'avait vu hier. Et j'ai de la chance, moi, dans la vie, d'avoir des amis qui sont comme ça. Ils sont des êtres exceptionnels. J'ai de la chance là-dessus. On ne se voit pas forcément très souvent, mais quand on se voit, c'est très rassurant. C'est comme d'habitude.
To the end of love. you're dancing to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
Couleur FM, au fil des arts, la chanson que nous venons d'entendre, Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen, a bercé avec bien d'autres les nuits d'écriture de notre romancier et elle accompagne les tribulations du personnage principal du second roman de Christophe qui s'intitule L'assassinat de Gilles Marzotti. Même s'il n'est plus là, un artiste comme Leonard Cohen ne meurt jamais.
Alors j'ai failli m'autoriser une sévère réprimande. Oui, parce que vous dites que la vieillesse est une malédiction. Donc je me suis senti un peu visé. Et en plus, vous le dites pour un personnage que vous dépeignez avec beaucoup d'affection, Claudine, cette vieille dame qui se prend, elle, d'amitié plus que ça, même pour Raoul, et dont il va s'occuper, plus que s'occuper. Enfin, il est presque comme son fils.
Oui, alors, le personnage, Raoul, dit que la vieillesse est une malédiction. Pour lui, la malédiction se situe dans le fait qu'on meurt, pas dans le fait qu'on soit vieux. Parce que, par exemple, cette vieille dame, Claudine, là encore, elle fait partie presque des anges gardiens de l'histoire, de ces gens qui viennent lui tendre des perches. C'est une femme passionnante. Et comment dire, les personnes âgées, comme d'ailleurs les personnes non âgées, sont souvent des gens passionnants. Il y a en tout cas chez les personnes âgées toute une histoire à raconter. Il y a plein de choses. Moi, je trouve ça merveilleux. La vieillesse, les vieux. La partie où je me sens en résonance avec ce que dit Raoul quand il dit que la vieillesse est une malédiction, c'est sur la mort. Si la vieillesse n'aboutissait pas à la mort, enfin, en tout cas, moi, elle me dérangerait pas. Il y a quelque chose de très beau, en tout cas. Je ne vais pas dire que c'est très beau, parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais en tout cas, dans le personnage de Claudine, quelque chose que j'ai voulu montrer de la vieillesse qui est très beau, qui est justement à contrario de ces sociétés où il faut tout le temps aller vite. Et il y a cette question-là aussi qui revient, c'est-à-dire que les vieux, dans notre société, enfin dans une société extrêmement basée sur l'argent, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le bonheur, le fait d'être sportif, d'être toujours en bonne santé, etc. Trouver sa place en tant que personne âgée là-dedans, je trouve ça pas facile. Et je trouve que les personnes âgées dans notre société sont pas très bien traitées globalement.
C'est amusant parce qu'en fait, les quelques premières pages des Plumes et du Goudron, on voit Louis qui va au jardin du Luxembourg et qu'est-ce qu'il fait? Il envie ces vieux qui viennent s'asseoir tranquillement à 10h, déguster un café, bouquiner.
Oui, je crois que j'ai un vrai questionnement sur la vieillesse, puisqu'effectivement, Des Plumes et du Goudron, ça commence par la projection du tien. Il adore le jardin du Luxembourg, Louis, et il se dit que quand il sera vieux, il viendra tous les matins ici lire Libé, parce qu'il trouve ça très, très beau en fait. Justement, ce temps, on a le temps de se poser sur un banc, de lire un journal, de regarder de regarder le jour qui se lève, de ne pas tout le temps être en train de courir. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve être très beau dans la vie. Et je pense effectivement être un peu dans l'angoisse, moi, du temps qui passe, non pas parce que ça me dérangerait de devenir vieux, mais parce que ça me dérangerait de devenir mort.
Est-ce qu'on peut vous demander s'il y a un troisième roman qui est démarré ?
Il est non seulement démarré, mais j'en ai bouclé à peu près la moitié. Donc c'est un roman en deux parties. Une partie très adolescente, c'est-à-dire c'est pas la rencontre d'ailleurs, c'est deux adolescents qui sont presque des alter-ego, qui vont, à cause d'une fille, se détester, qui ensuite ne vont plus se voir pendant 20 ans, et vont se recroiser par hasard à Paris en 2016 avec le contexte de notre époque, c'est-à-dire une époque perturbée, une époque où on a connu des attentats, où beaucoup de gens se sentent un peu perdus dans leur travail, dans leur conviction. Et l'idée, c'est d'écrire un peu qu'est-ce qu'on a fait de nos 20 ans, de nos idéaux de jeunesse.
Il faut combien de temps pour boucler un roman ? Est-ce que c'est à géométrie variable ou...
Oui, c'est à géométrie variable. Moi, je dirais que je mets à peu près, j'allais dire 9 mois. En gros, c'est ça, il me faut entre 9 mois et 1 an pour boucler un roman, parce que je ne fais pas que ça, qu'en même temps, je ne me verrais pas faire que ça. Après ce travail dont je vous parlais, qui est un travail un peu de bête sauvage, avec ma musique dans les oreilles où j'écris, après, il y a tout un travail de relecture. Je sais pas, je le réécris 10 fois, le roman. C'est-à-dire que ces fameuses phrases courtes, des fois, où il n'y a qu'un mot, si le mot ne me plaît pas, je peux passer 3 jours dessus. Quoi. Enfin, 3 jours, je ne vais pas rester pendant 3 jours devant ce mot, hein, mais pendant 3 jours, en tout cas, ça va être un vrai casse-tête. Et il faut qu'à la fin, j'ai une impression que tout glisse. Je lis à voix haute et je traumatise ma compagne en la poursuivant pour lui lire, parce qu'en fait, lire à voix haute tout seul, c'est pas pareil que lire à un interlocuteur qui va réagir. Et j'ai de la chance parce qu'elle m'aide beaucoup là-dedans, c'est-à-dire qu'elle est pas du tout clémente. Elle me dit les choses, alors si, elle peut me dire que c'est formidable quand elle le trouve, mais en tout cas, elle essaye pas de me brosser dans le sens du poil, c'est presque un travail d'éditeur qu'elle fait.
Je vous ai pas demandé avant l'entretien, vous êtes pas obligé d'accepter, mais... Vous voudriez nous lire un passage du premier roman ou
oui, pas obligé. Je veux bien, oui. Je ne me sens pas en vacances depuis 3 jours. J'ai du mal à revenir de Polémieux, à envisager la rentrée. Coincé entre le château et ma classe, je suis oppressé, aussi paniqué que Cadouan. L'automne commence à s'installer pour de bon, la décrépitude gagne du terrain. Je hais l'automne et je pressens que ce sera pire en vieillissant. Quand mes mains tachées de brun trembleront autant que les feuilles emportées par le vent cruel de novembre. Dans les livres d'écoliers, l'automne est beau, il est rouge et jaune. L'école ment, l'automne est laid, sale, triste, grisâtre. L'école n'est pas ce mensonge près. Celle que je fréquente quotidiennement promet aux enfants la liberté, l'égalité, la fraternité, en lettres rouges sur fond jaune. La devise républicaine fait le tour du préau. Une belle frise. Ma mission est de participer à ce mensonge, de leur faire avaler des couleuvres jaunes à pois rouges. Je jure, la main sur le cœur, que les laborieux obtiendront des diplômes et la belle vie. Ils ne me croient pas, ils savent qu'ils sont égaux entre eux, mais pas avec le reste de la société, qu'ils devraient se battre encore plus que les autres, avec moins d'armes, plus d'ennemis. Bilal ne se sent pas l'égal des gamins qu'il croise à Bellecour le samedi, en manteau bien boutonné, papa à gauche, maman à droite, et mamie qui applaudit une progression laborieuse à trottinette. Bilal sait faire bien mieux avec sa trottinette, son vélo, son skate. Personne ne l'applaudit, jamais. La main de sa mère ne sert pas à lui faire traverser la rue, il ne cherche pas sa compagnie. Il l'évite, s'en méfie de la main de sa mère. Ses joues la connaissent, elle est rapide, impitoyable. Je vais gâcher mes vacances, les premières de l'année. Je ne savais pas que c'était possible de rater des vacances. Je devrais être soulagé. Profiter de ces quelques jours avec Linda plutôt que de suer dans notre lit. Je suis assis dans les décombres de ce début d'année, je cherche la solution, la clé des champs. La devise de la République m'emprisonne. Caroline, Gisèle et Ali la désignent d'un index impatient. J'ai promis, ils la veulent, l'égalité des chances et des diplômes de professeurs, de docteurs, d'astrophysiciens. Ils attendent que j'honore ma promesse, que je devienne vraiment le maître, qu'on se mette enfin au travail. Je veux bien sacrifier mes vacances à leurs revendications légitimes, tout remettre à plat, en 2 colonnes. Une étroite pour inscrire les petites victoires, une large pour remédier aux échecs. Il faudra tout changer, les livres, ils ne sont pas adaptés. Il faudra tout inventer, trouver une méthode pour chacun, pour Mehdi qui ne sait compter que l'argent, pour Saphir qui ne s'exprime qu'en chimo arrêt, pour Stéphane qui a peur des mots. J'ai perdu le premier round, je peux gagner les autres. Je suis un battant, un cogneur, je ne me laisse pas impressionner facilement.
Merci Christophe Desmurger.
Merci à vous.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.